Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Une amie d'enfance que j'aime beaucoup, une amie très chère à moi, m'a fait un merveilleux cadeau parce qu'il avait aimé le livre, elle m'a envoyé un éléphant en ivoire.
Un certain égard et un devoir général d'humanité qui nous attache non seulement aux bêtes, qui ont vie et sensibilité, mais aux arbres même et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes et la douceur et la bienveillance aux autres créatures qui peuvent être capables de les ressentir. Je ne crains pas d'avouer la tendresse de ma nature, si puérile que je ne peux pas franchement refuser à mon chien la fête qu'il me fait ou qu'il me demande quand ce n'est pas le moment. L'équipe des Nouveaux Chemins, elle aussi, aime vous faire la fête et sans chien, sans le chien de montagne, grâce à Antoine Ravon, Lucie Tardy, Colomba Grossi et Marianne Chassor, avec Lise Combe cette semaine à la réalisation, Clément Daté à la prise de son, ainsi que Géraldine Mosnay-Savoie que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comment ne pas passer pour un imbécile? Eh bien réponse à l'occasion de la parution de l'essai Autour de la bêtise de Roland Bréheur aux éditions Classiques
d'Année. Une question d'actualité, rendez-vous à 10h51. L'animal miroir, quatrième et dernier temps. Après Elisabeth de Fontenay, lundi, Patrick Dandré, les fables de La Fontaine, mardi, Florence Burga et la phénoménologie de l'animal, hier, mercredi, terminons cette série en compagnie d'éléphants et de chiens. Ceux des Racines du ciel, pris Goncourt en 1956, et de Chiens blancs, écrit en 1969 aux États-Unis, en pleine lutte des Noirs américains pour leurs droits civiques. L'auteur de ces deux livres, c'est Romain Gary, et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Roumette, maître de conférence en lettres modernes à l'Université de Toulouse, Le Mirail et Jean Jaurès, qui vient vous parler aujourd'hui de cet écrivain qui aimait trop les animaux pour en faire des symboles. Bonjour Julien Roumette.
Bonjour.
Plus je vis et plus j'ai besoin d'animaux, et évidemment c'est un peu enfantin en ce sens que c'est un très grand besoin d'innocence. L'animal n'est pas le malade humain que nous sommes. Il n'est pas paranoïaque, il n'est pas justement une créature en lutte idéologiquement et socialement contre ces maladies profondes. C'est une nature simple, honnête, bonne ou méchante, mais complètement innocente. Et j'ai besoin de toute leur présence, j'ai besoin de tous les animaux du monde que je peux ramasser. Évidemment, il n'en est pas question. Je ne peux vivre à Paris avec un piton, je l'ai donné au jardin zoologique. Il y a des tas d'animaux que je ne peux avoir avec moi simplement par sens de responsabilité, parce que je voyage sans arrêt. Je vous dis, pour moi, le spectacle de l'animal est de l'ordre de celui du feu dans une cheminée, celui de la campagne. En ce sens, c'est le rappel qu'il y a encore en nous quelque chose de simple, autour de nous au moins, quelque chose de simple et d'innocent. Je ne puis m'en passer.
Monsieur et cher éléphant, vous vous demanderez sans doute en lisant cette lettre ce qui a pu inciter à l'écrire un spécimen zoologique si profondément soucieux de l'avenir de sa propre espèce. L'instinct de conservation, tel est bien sûr ce motif. Depuis fort longtemps déjà, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. En ces jours périlleux d'équilibre par la terreur, de massacres et de calculs savants sur le nombre d'humains qui survivront à un holocauste nucléaire, il n'est que trop naturel que mes pensées se tournent vers vous. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison, car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes. Je ne sais que trop bien qu'en prenant votre parti, mais n'est-ce pas tout simplement le mien, je serai immanquablement qualifié de conservateur, voire de réactionnaire, monstre appartenant à une autre époque préhistorique, celle du libéralisme. J'accepte volontiers cette étiquette, en un temps où le nouveau maître à penser de la jeunesse française, le philosophe Michel Foucault, annonce que ce n'est pas seulement Dieu qui est mort, disparu à jamais, mais l'homme lui-même, l'homme et l'humanisme. Julien Roumette, je disais que Romain Gary aimait trop les animaux pour en faire des symboles, et pourtant c'est vrai que dans cette lettre qu'il adresse à un éléphant, qui était publiée dans le Figaro littéraire de 1968, qui est beaucoup plus longue, j'en ai lu qu'un extrait, qui est un texte magnifique et assez bouleversant, je dois dire, eh bien on voit bien quand même que Romain Gary se sert, entre guillemets, de l'éléphant comme d'un symbole, c'est celui d'un monde qui n'est plus et qu'il tient à tout prix à préserver, et c'est l'enjeu de son quatrième livre « Les racines du ciel ».
Oui, c'est un symbole. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Gary lui-même fait dans des interviews la comparaison avec Moby Dick de Melville en disant que ces éléphants, c'est comme les baleines de Moby Dick. Ils sont à la fois un symbole et une réalité. Mais si on regarde un tout petit peu le roman quand même, finalement, les éléphants sont très peu présents dans le texte. C'est pas du tout un texte, c'est pas une encyclopédie de l'éléphant, et c'est même pas le texte de quelqu'un qui connaît particulièrement bien les éléphants. Donc à ce titre-là, c'est un symbole. Ce qui est intéressant dans Les Racines du Ciel, c'est que, au fond, c'est la, qui obtient le prix Goncourt et.
En 1956.
Indépendamment du prix, je veux dire, le prix veut dire quelque chose, mais ça ne signifie pas forcément énormément du point de vue de la qualité littéraire. C'est aussi un texte où Gary trouve enfin sa voix. C'est-à-dire que, après un premier roman écrit pendant la guerre, fini en 43, donc vraiment un roman de combattant, de résistance, dans la France libre, après-guerre, Gary a beaucoup de mal à s'y retrouver, à trouver ses marques. Il continue à défendre quelque chose qui est dans la continuité de son engagement pendant la guerre. Mais en même temps, il se trouve complètement pris au piège des luttes idéologiques du temps. Et dans le roman d'avant, les couleurs du jour, il met en scène un personnage qui est une sorte de double de lui-même et qui, d'une certaine façon, donc un ancien de la France libre, et qu'il met à mort, d'une certaine façon. Et Les Racines du Ciel, c'est la façon qu'il trouve de déplacer les enjeux pour continuer à défendre les idées dans lesquelles il croit, les idées de l'humanisme, comme on le dit dans la lettre à l'éléphant, en changeant de terrain très intelligemment, sur un terrain qui n'est pas au centre des débats idéologiques de l'époque. La protection de la nature ne fait pas partie des grands enjeux des polémiques entre Sartre et Camus sur le communisme, l'anticommunisme, tous les moyens sont-ils bons pour la révolution, etc. Et donc, les éléphants, c'est un coup de génie, en fait, de déplacer ce en quoi il croit, et trouver quelque chose qui va incarner ses valeurs et qui échappe aux termes déjà préconstruits ou précontraints du débat de l'époque. Et c'est ce qui fait que c'est un des premiers grands romans écologiques, parce qu'il trouve la protection de la nature et d'une façon, c'est un terrain complètement marginal et qu'il a l'intuition d'occuper. Ce qui est intéressant, juste en passant, c'est que il n'est pas le seul à faire ce constat-là. Quelqu'un qui est très différent de Gary, qui est Vercors, qui au même moment, au début tournant des années 50, arrête d'écrire des romans sur la guerre, sur d'anciens résistants, sur d'anciens, etc., comme ce qu'il a fait jusqu'à la fin des années 40, pour écrire Les Animaux Dénaturés, qui est aussi une réflexion sur l'animal et là, comment est-ce que l'animal peut nous donner une façon de réfléchir, des éléments de réponse à la question, mais qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'est devenu l'homme, qui est la grande question qui est posée à tous ces, à toute cette génération qui est sortie de la guerre.
Et comme souvent d'ailleurs, lorsqu'on a des philosophes ou des écrivains qui s'intéressent aux animaux, qui réfléchissent sur le statut des animaux, c'est bien souvent un détour pour mieux réfléchir sur le statut de l'homme lui-même.
Tout à fait. Ce qui n'enlève rien à l'attachement réel de Gary et à l'importance des animaux pour Gary lui-même.
Non, mais le choix de l'éléphant n'est pas anodin, car il a quand même choisi, puisque vous le dites bien, il ne connaissait pas spécialement l'Afrique ni les éléphants, un animal qui pour le coup est absolument indomesticable et qui est un symbole, là encore, d'une forme de liberté dont la moindre tentative de se l'approprier résulte en un carnage en réalité.
Alors, c'est ce qu'il en fait, parce que c'est pas tout à fait vrai. Le choix de l'éléphant est tout à fait intéressant. Il connaît un tout petit peu parce que pendant la guerre, il a passé 6 mois dans l'actuel Tchad, Centrafrique, Bangui, dans les France françaises libres. Donc il connaît un peu, mais c'est pas un Africain au sens de quelqu'un, au sens des personnages qu'il met dans son roman, ou qui sont des gens qui connaissent l'Afrique. Qui sont... Alors pourquoi l'éléphant ? Ça c'est intéressant parce que disons que là il y a peut-être une petite incohérence, c'est-à-dire que les éléphants en fait se domestiquent, mais pas en Afrique. En Asie, l'éléphant est un animal domestique, en fait. Donc, mais lui, l'image qu'il a, c'est l'image de l'éléphant africain. Donc là, c'est intéressant de voir comment, finalement... Bon. Mais pourquoi l'éléphant ? C'est un symbole de force, de puissance. Et en même temps, c'est pas un prédateur. Il insiste beaucoup dans le texte, les adjectifs qui sont associés aux éléphants, c'est pacifique, tranquille, paisible, etc. C'est pas la panthère ou le tigre de Kipling, c'est pas le lion de Kessel. Et donc, il y a un imaginaire de chercher quelque chose qui est dans la nature, qui est un animal dans la nature, qui est un animal qui est aussi peut-être un peu, finalement, pas si présent que ça dans la littérature moderne. Donc, bon, même si l'éléphant a une longue histoire. Et de toute façon, il ne le fait pas. Melville, par exemple, dans Moby Dick, pour y revenir, fait une sorte de tableau général de la présence de la baleine dans l'histoire de l'humanité, y compris de la littérature. Gary ne fait pas ça du tout. Donc, il prend un symbole qui est un symbole pour lui d'un animal paisible qui incarne une force qu'on ne laisse pas dévier de son chemin. Et donc, il incarne vraiment l'instinct vital, ce qui fait qu'on continue à avoir envie de vivre. Et donc cette image-là est tout à fait intéressante et prend à prix un peu tout le monde à contre-pied parce qu'effectivement, ce n'est pas le genre d'animaux qu'on a l'habitude de prendre comme symbole dans la littérature moderne.
L'Afrique retrouvait dans la nuit son mystère, ses accents innombrables et discordants, ses cris, ses appels et ses rires. Et la terre tremblait parfois au passage d'un troupeau. La piste déserte s'étendait dans la lumière des phares. L'air, encore touché par la fraîcheur du désert, était soulevé par une palpitation sonore qui paraissait donner une voix et une respiration au ciel lui-même. Brusquement, comme irrité par ce vacarme d'insectes, par ce cœur des petits, un rugissement qu'aucune distance n'empêchait jamais de paraître tout proche s'éleva dans ce qui parut devenir soudain silence. Et il sembla que les nuages eux-mêmes autour de la lune se mettaient à fuir tout à coup plus vite vers le lointain. Le cœur de Mina se mit à sauter. Elle avala sa salive, spasmodiquement, et écouta un moment, tremblante et heureuse à la fois, la seule voix qui put s'élever sans ridicule vers l'immensité étoilée. Il lui parut que le rugissement approchait. Elle recula, abandonna la nuit, revint s'asseoir sur le pare-choc de la voiture et là, séparée des ténèbres par la lumière des phares, elle ouvrit son sac à main. Et inquiète, presque affolée, elle s'accrocha un réflexe familier pour se donner du courage. Elle croisa les jambes, tira sur sa jupe et rabattit sa jupe sur ses genoux, prit son rouge à lèvres et son miroir et se maquilla les lèvres avec un air de défi. Soudain, elle se mit à rire. À chaque rugissement du lion répondait un ronflement sonore dans la jeep. Puis le silence tomba. Et les insectes revinrent. Elle prit son châle, s'en entoura les épaules et resta là, frissonnante, heureuse, éloignée de tout, bercée par les ondes bleues et phosphorescentes de la nuit. La clarté du ciel était telle que les millions de papillons blancs qui voltigeaient au-dessus de la route paraissaient une voie lactée terrestre, mise ainsi à portée de main. Ici, c'est le texte de l'éléphant qui devient comme un objet du désir pour Mina, qui est à la fois éveillée par le rugissement du lion au lointain et l'éléphant qui lui-même à proximité. Ici, la manifestation d'un désir sexuel qui ne se cache pas, Julien Roumette.
Absolument. Mais le texte est aussi très révélateur du statut de l'éléphant dans le roman. C'est-à-dire que l'éléphant reste au loin. L'éléphant est évoqué, c'est une présence lointaine. Il n'est pas décrit précisément, là on le voit dans le texte, hein, ça reste le barrissement de l'éléphant. Il est peut-être d'autant plus désirable qu'il est absent d'ailleurs, il y a quelque chose, c'est peut-être cet ordre-là. Et le texte, d'ailleurs les éléphants arrivent très tard dans le roman. Hein, on ne commence pas par une page qui décrit la vie de l'éléphant. L'évocation est d'autant plus forte que justement il est peu présent. Il y a un certain nombre de passages, mais qui sont finalement très peu nombreux dans le texte. Et c'est pour traduire ce qui symbolise, au fond, qu'il y a un désir de quelque chose. Et parce qu'il n'est pas présent, il peut d'autant mieux le symboliser.
Alors peut-être racontez-nous quand même l'intrigue de Racine du ciel, parce qu'il y en a une, et qu'on comprenne un peu qui est cette Mina qui se remaquille en entendant un rugissement.
Absolument. Alors Mina, elle est venue en Afrique pour échapper aux horreurs de la guerre. C'est une rescapée de Berlin. C'est une Allemande. Un peu comme tout... au fond, Les Racines du Ciel, c'est un roman qui met en scène surtout des coloniaux ou des pseudo-coloniaux soit des coloniaux, soit des paumés qui sont en Afrique parce qu'ils ont fui leur pays. Ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Allemagne, ça peut être la France. Et qui cherchent... qui sont en quête à la fois d'eux-mêmes et d'autres choses. Et donc, l'histoire des Racines du Ciel, c'est que c'est un idéaliste un peu illuminé, qui s'appelle Morel, qui lance une pétition pour sauver les éléphants d'Afrique, pour empêcher qu'on les massacre, à une époque où ils ne sont pas protégés encore par les conventions internationales. Et il monte une sorte de maquis. Mais ce qui est intéressant, c'est que... c'est le passage vraiment de la lutte armée. Les précédents, dans tous les précédents romans de Gary, les personnages principaux se sont engagés les armes à la main pour lutter contre le nazisme, contre Staline, contre la guerre de Corée, par exemple. Là, finalement, Morel prend les armes, mais la lutte qu'il mène n'est pas tellement militaire, elle est vraiment tout symbolique, et c'est une lutte qui est axée sur l'opinion publique mondiale. Il veut faire des actions symboliques qui vont faire changer, basculer l'opinion. Et donc il monte une sorte de petit maquis qui mène surtout des opérations pacifiques, même si parfois il y a un peu des débordements violents dans cette histoire-là, mais qui reste limité quand même, pour arriver à faire changer l'opinion sur les éléphants et qu'il y ait une protection des éléphants. Voilà. Et Mina, c'est une de celles qui le rejoint. Et donc, la composition du petit maquis, la reconstituée, est extraordinairement symbolique. Mina, c'est une victime de la guerre, une victime allemande de la guerre. Il y a un journaliste juif américain dont les parents sont morts, ou la famille est morte dans les camps de concentration, qui va venir le rejoindre aussi. Bon, voilà, il y a des anciens de la France libre. Bon, c'est une sorte de cocktail d'idéalistes. D'après-guerre, et probablement à travers Les Racines du Ciel, ce que Gary imagine, c'est comment les anciens de la guerre, les anciens résistants, les anciens de la France libre vont pouvoir féconder les combats futurs. Ne pas rester sur les combats du passé qui étaient ceux de la guerre, mais essayer de voir quels seront les combats à venir. Et c'est là qu'il a une intuition tout à fait fascinante, c'est que le combat de l'avenir, c'est plus le débat sur les moyens de la révolution, etc. C'est la protection de la nature.
Et pourquoi justement? Pourquoi alors du coup l'éléphant incarne-t-il le nouvel enjeu qui les attend? Parce que à ce moment-là, c'est pas la nature qui les préoccupe le plus.
Non. Et justement, l'éléphant incarne ce nouvel enjeu parce qu'il est comme Gary dit, et c'est à la fin de la lettre à l'éléphant. Hein, il dit l'éléphant incarne. Il est maladroit. Il prend de la place. Et il incarne des idées qui sont difficiles à défendre, qui sont celles de l'humanisme et qui paraissent complètement dépassées dans les années 50 et dans les termes du débat politique des années 50.
Moi, je suis un monsieur qui passe son temps à dire non à énormément de choses. Morel est certainement, de tous les personnages que j'ai décrits, celui qui m'est le plus proche et celui qui me représente le plus nettement. Comme je suis obligé d'écrire, parce que je ne peux pas vivre sans cela, Je ne peux pas, comme lui, aller défendre les éléphants partout où ils sont menacés. Il y a là un choix fondamental à faire, et il faut choisir ou bien l'engagement physique et matériel ou bien la littérature. Je ne crois pas que les deux soient conciliables. Il y a une certaine lâcheté même dans la chose. Il y a un rapport extrêmement, excusez-moi l'expression, cochon entre la littérature et la réalité. Premièrement, prenez Guernica. L'horreur de Guernica donne naissance au chef-d'œuvre de Picasso. L'horreur nous donne des chefs-d'œuvre, inspire des poètes, les peintres. J'en ai toujours été extrêmement conscient. Mais deuxièmement, il y a quelque chose de plus grave. C'est que finalement, on écrit pour se débarrasser du monde, pas tellement pour le changer. Je dirais même que la littérature ne change guère le monde, c'est absolument certain. La littérature engagée n'a jamais rien donné dans ce sens. Je crois que cet aspect de purge, de révolte qui consiste à fond à ne rien faire, est extrêmement typique de tout romancier.
Le sergent Gruber avait été instituteur au Schleswig-Holstein avant la guerre. En une seconde, il avait compris ce qui se passait. Il avait reconnu l'ennemi. On se trouvait devant une provocation scandaleuse, une profession de foi, une proclamation de dignité inadmissible chez des hommes réduits à zéro. Oui, il lui avait suffi d'une seconde pour faire le point et pour saisir toute la gravité du défi qui était lancé aux constructeurs d'un monde nouveau. Il se rua au combat. Il se jeta d'abord sur les prisonniers, accompagné des gardes qui ne comprenaient pas très bien de quoi il s'agissait, mais qui étaient toujours là pour cogner. Il distribuait donc des coups de crosse et des coups de botte, mais le sergent Gruber comprit très vite que ce n'était pas cela qu'il fallait pour toucher les manifestants comme il convenait. Il fit donc une chose qui était peut-être répugnante, mais aussi presque pathétique par son impuissance à atteindre ce qu'il visait. Il se mit à courir dans l'herbe, les yeux baissés au sol, et chaque fois qu'il voyait un hanneton, d'un coup de botte, il l'écrasait. Il courait dans tous les sens, tournait en rond, bondissait, le pied levé, frappait le sol du talon, dans une sorte de danse cosaque désopilante et presque touchante par son inutilité. Car il pouvait assommer les détenus et il pouvait écraser les hannetons, mais ce qu'il visait était complètement hors d'atteinte, hors de portée et ne pouvait être tué. Finalement, il le comprit. Il avait entrepris une tâche qu'aucune armée, aucune police, aucune milice, aucun parti, aucune organisation ne pouvait mener à bien. Il eût fallu pouvoir tuer tous les hommes jusqu'au dernier et sur toute la terre et encore. Il était probable que cette trace allait demeurer derrière eux, comme un sourire de la nature.
Alors si l'éléphant symbolise un certain rapport de l'homme à la nature et même de l'homme à lui-même qu'il s'agirait de préserver au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Julien Roumette, que symbolisent les hannetons qui sont ainsi écrasés par ce sergent Gruber ?
En fait, le contexte, ce sont des prisonniers d'un camp de concentration qui, pour tenir, pour se remonter le moral, pour affirmer le fait qu'ils restent humains, veulent faire un geste de fraternité. Et le geste de fraternité, ils le font vis-à-vis d'animaux, donc de petits animaux, les hannetons, qui tombent sur le dos et donc qui passent leur temps à les remettre dessus alors qu'eux-mêmes sont épuisés par les conditions du camp de concentration. Et alors c'est un très bel apologue que fait Gary, parce que c'est là-dessus qu'il conclut quasiment
le roman. On est à la fin du roman.
C'est la fin, c'est vraiment les dernières pages du roman. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il finisse un roman sur les éléphants par un épisode sur les hannetons, parce que les éléphants disparaissent complètement de la fin du texte, ou pratiquement. Et donc ça montre bien à quel point ils sont symboliques. Et aussi ce qui est en jeu, c'est à la fois les éléphants, mais la nature. Les éléphants sont là des représentants de l'ensemble du rapport de l'homme à la nature. Et donc ces hannetons... sont un défi à la négation de leur humanité par les gardiens nazis du camp. Voilà. Donc c'est un geste de rébellion et de révolte très intéressant, parce que c'est pas un geste de rébellion armée. ils prennent pas les armes, il y a pas de victoire, ils ne tuent pas, ils ne s'échappent pas du camp, c'est entièrement sur le terrain symbolique, et c'est d'autant plus fort parce que sur le terrain symbolique, effectivement, leurs gardiens ne peuvent pas faire grand chose.
D'autant que le sergent Gruber est dans le camp de concentration, avait été instituteur au Schleswig-Holstein avant la guerre, nous dit-on, et que c'est un personnage qui, là, lui-même, symbolise aussi autre chose, qui est quand même paradoxal par rapport à Romain Gary qu'on entendait avant. On a entendu sa voix disant, finalement, celui qui écrit, il résiste, mais il ne change pas vraiment les choses. L'écrivain écrit pour se débarrasser du monde, plus que pour le changer. Et pourtant, les personnages qu'il met en scène, ainsi que les animaux, sont autant d'espoir qu'il met en un possible changement de ce monde. Justement.
Oui, mais je pense qu'il faut prendre ce genre de déclaration aussi par rapport au contexte de l'époque, c'est-à-dire que c'est aussi une déclaration contre la littérature engagée, qui serait directement engagée.
Au moment où il parle, on est en 1978. Hein,
voilà, donc je pense, mais même Les Racines du Ciel, en soi, l'idée d'écrire un roman sur les éléphants et pas sur... Et sur la guerre de Corée ou sur sur les événements géopolitiques dans lesquels Gary est plongé jusqu'au cou puisqu'il est diplomate. Donc c'est aussi une idée de changer de terrain, et donc de ce point de vue-là, les animaux servent, les hannetons, les animaux servent à prouver une quelque chose qui est d'un autre ordre que du terrain strictement politique, et qui est une vision générale, universaliste, et qui est avant tout morale, au fond. C'est extrêmement moral, cette histoire des hannetons.
De toute façon, le rapport de Gary aux animaux dans tous ses textes, là on parle des Racines du Ciel, mais on pourrait en évoquer quasiment tous les romans de Gary mettent en scène un animal, on va arriver à Chien Blanc dans un instant, mettent toujours en scène un enjeu qui est proprement moral.
Absolument, oui, c'est vraiment une vision morale. C'est un moraliste, Gary. C'est un moraliste.
Et non pas un moralisateur.
Mais c'est un moraliste qui n'est pas moralisateur, et vous avez raison. Il cherche des mythes, au fond, il cherche des légendes. La promesse de l'aube, il veut écrire. Ce que Morel cherche à faire, dans tout le roman, ce qu'il affirme, c'est qu'il veut créer une légende autour de lui-même pour faire changer les esprits, pour faire réfléchir les gens. Et au fond, La promesse de l'aube, c'est ça, sera ça. Il écrit sa propre légende. Et donc, il est tout à fait conscient. Il dit que la littérature n'a jamais rien changé, mais en fait, il passe son temps, en fait, comme écrivain, à essayer de changer le monde à travers la littérature. Mais pas par des discours politiques directs, ou très rarement, ou très marginalement, mais en essayant de créer des images, des légendes, des mythes. Il vise très très haut. Il compare Les Racines du Ciel à Moby Dick. Donc, il faut quand même avoir un certain aplomb pour le faire, ça.
C'est un jour de pluie à Hollywood, j'étais avec ma femme Jean Seber qui tournait un film, et mon chien jaune, Sandy, avait disparu. Pendant quelques jours, il est parti en vadrouille, et puis il est revenu avec un autre chien, un berger allemand, assez âgé, assez pépère, que nous avons recueilli. C'était une bête très douce et très gentille, très sympathique, qui faisait fête à tous nos invités, sauf brusquement, quelques jours après, plus exactement, on s'est aperçu, chaque fois qu'il y avait un noir qui s'approchait de la porte, j'ai dit même pas qu'il entrait à la maison, qui s'approchait de la porte, il lui sautait immédiatement à la gorge. Il se déchaînait, il devenait une furie. C'est une transformation totale de la bête, de l'animal paisible et amical, en une furie déchaînée. Et nous sommes aperçus qu'il s'agissait de ce que, depuis quelque temps, on appelait dans le Sud, parmi les Noirs, chien blanc. Chien blanc, en ce sens que c'était un chien dressé pour faire la chasse aux Noirs dans les manifestations et ailleurs. Et je me suis attaché à la fois à la bête et à l'idée de guérir cette bête de quelque chose qui était, au fond, un racisme malgré elle. This is a story of Fanny's dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, counting dogs, funky dogs.
Compete, but the dog.
Et oui, on a quitté l'Afrique des racines du ciel pour arriver aux États-Unis en 1969. Chien blanc, c'est l'année où écrit Chien blanc de Romain Gary. Donc Romain Gary dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de cette dernière émission consacrée sur le thème de l'animal, thème qui nous occupe depuis lundi dernier. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Roumette, qui est maître de conférences en lettres modernes à l'Université de Toulouse, Le Mirail Jean Jaurès, spécialiste évidemment de Romain Gary et qui a co-dirigé le numéro de la revue Europe sur Romain Gary, paru en juin 2014, à qui on doit une étude sur la promesse de l'aube aussi, disponible aux éditions Ellipse.
Why must I feel like that? Why must I chase the cat? Nothing but dog in me.
Je vais chercher la laisse dans la voiture et je téléphone à Chuck Belden. Je lui demande de me prêter son revolver. Je reviens chercher Batka. Il me suit en boitillant, la langue pendante. Il a de la peine à sauter sur le siège de la voiture. Une ou deux côtes cassées probablement. Je l'aide. Nous roulons à travers Ventura Boulevard, coupons par Laurel Canyon. Au feu rouge, les gens sourient à ce bon chien sagement installé à côté du conducteur, surveillant la route. Je brûle un feu rouge pour ne pas m'arrêter à côté d'une camionnette dont le chauffeur est un noir. J'enferme Batka dans le garage. Chuck m'apporte un colt de l'armée à 4h de l'après-midi. Je me verse un whisky, mais je me retiens. Je sais que je ne peux pas me permettre de boire un whisky et de me balader ensuite à travers la ville avec un revolver chargé à portée de la main. Chez moi, l'alcool supprime la laisse. Je vide donc mon verre dans le bégonia et me mets au volant. Batka aime les promenades en voiture. Je ferme toutes les vitres et nous traversons Hollywood, roulant vers le Griffith Park où j'allais jadis faire de la course à pied avant de m'installer dans mon bureau consulaire à Outpost Drive. J'arrête la voiture près de la croix du pèlerin et je fais sortir Batka. Je prends le revolver. Batka me regarde. Il sait. L'instinct. Il baisse la tête. Je vise derrière l'oreille. Chien blanc attend. Ma main tremble. Je pleure. Les larmes noient tout. Le chien se brouille. Je tire. Je le rate. Le chien n'a pas bougé. Il ne m'a pas regardé. J'ai l'impression d'avoir raté mon suicide. Chien blanc, dans ce roman, Julien Roumette, est ici toujours une forme de symbole, mais qui va devenir victime de lui-même.
Tout à fait, oui. Jusqu'à Chien blanc, la plupart des animaux, la quasi-totalité des animaux qui sont évoqués dans les textes de Gary, sont des bonnes natures. C'est le chat de la promesse de l'aube, c'est le phoque du début et de la fin de la promesse de l'aube, c'est les premières et dernières images de la promesse de l'aube, c'est des animaux. Ce sont les éléphants qui sont paisibles par nature et qui deviennent rogues ou enragés quand on les attaque, mais sinon, voilà. Avec Chien blanc, Gary commence à pousse un peu plus loin, disons, la problématique. Et il a un animal qui est par nature bon, mais qui a été dressé, qui a été conditionné. Et donc, le récit, qui est en deux temps, installe d'abord la bonté du chien. C'est-à-dire qu'il commence par recueillir un chien dont il ne connaît rien, qui lui est ramené par son propre chien à lui, qui s'appelle Sandy. Et ils s'aperçoivent progressivement, il s'aperçoit, lui et Jean Seberg, sa femme à ce moment-là, que le chien est dressé pour attaquer les Noirs. Donc, il fait très nettement, et là on le voit bien dans ce texte-là, la distinction entre la nature du chien et le conditionnement qui l'a conduit à devenir une arme. Et il a une formule qui est au début du texte, qui est tout à fait révélatrice. Il dit « Ce que l'on appelait jadis l'humanitarisme s'est toujours trouvé pris dans ce dilemme entre l'amour des chiens et l'horreur de la chiennerie. » Et donc, l'amour des chiens, c'est Batka, donc le nom qu'il donne lui, il rebaptise le chien, qu'il donne à ce chien. Et l'horreur de la chiennerie, c'est ce que les hommes ont fait du chien. Donc le chien reste un symbole d'innocence fondamentale, l'animal lui-même reste un symbole d'innocence fondamentale, mais il est en quelque sorte perverti parce qu'il est humanisé. Donc on reste dans cet effet de miroir et de...
Très rousseauiste au fond, hein, c'est-à-dire c'est l'intervention de l'homme qui va nuire à la nature elle-même, qui est par nature innocente.
Ben tout à fait, oui, il reste innocent. Donc ça c'est le point de départ, et on voit bien aussi dans le texte, dans ce texte-là, qui est très poignant, à quel point à quel point lui-même se décrit en termes animaux.
C'est ça, c'est qu'il y a une identification qui va bien au-delà du symbole. Et c'est là, on en revient à ce que disait Gary en tout début d'émission, quand il a ouvert l'émission. Son amour pour les animaux fait que c'est le spectacle que lui offre en retour les animaux est comme un miroir dans lequel il se mire et dans lequel il regrette la perte de sa propre innocence. Puisqu'il dit, alors qu'il rate le chien quand il le vise avec son revolver, j'ai l'impression d'avoir raté mon suicide.
Et oui, c'est ça qui est passionnant dans le texte. C'est que le texte est une... Il fait des animaux un miroir de l'innocence humaine, mais aussi des perversités humaines, puisque le chien peut être dressé. Mais alors, ce qui est intéressant dans Chien Blanc, c'est qu'il y a le chien, évidemment, qui est le personnage principal, central, mais il y a beaucoup d'autres animaux. Et en particulier, il y a un chat.
Maï, voilà.
Et dont il dit, de façon assez hors contexte, ça peut paraître étrange, il dit « Maï est un être humain auquel je me suis attaché profondément ». Et il rajoute « Tout ce qui souffre sous vos yeux est un être humain ». Et donc là, on a vraiment une sorte de credo humaniste.
Qui fait référence à la citation de Montaigne que j'ai donnée en tout début d'émission, qui dit justement que parce que l'homme doit établir la justice dans ses rapports interhumains, mais avoir de la douceur et de la bienveillance envers les autres créatures qui sont capables de les ressentir.
Tout à fait. C'est voilà. Ça. Donc là, on est vraiment...
L'humanisme...
Voilà, c'est un humanisme au niveau des valeurs universalistes, vraiment au niveau de l'ensemble des espèces vivantes.
Et pourtant, là encore, Romain Gary, alors l'auteur et le narrateur, puisque les deux se confondent quand même beaucoup dans ce texte, va vouloir guérir Chien Blanc. Là encore, il n'est pas, contrairement à ce qu'il dit lui-même, l'écrivain qui veut juste se débarrasser du monde. Et d'ailleurs, il le dit dans le roman à plusieurs reprises, il le dit à son épouse, il dit « mais moi je reste pas aux États-Unis pour sauver la cause ». À ce moment-là, c'est quand même la révolte des Noirs américains.
Oui.
Et il ne veut pas du tout que sa maison soit envahie par les réfugiés que Jean Seberg vient accueillir. Il veut partir, il veut se débarrasser de ce monde-là. Et c'est par le biais du chien, finalement, qu'il va être amené à rester et qu'il va vouloir opérer cette conversion, pas simplement morale ici, mais proprement vitale, changer chien noir, chien blanc, pardon, non pas juste en chien noir, mais en chien normal, c'est-à-dire en chien qui peut mordre tout le monde. Il lui dit, je ne veux pas que tu mordes seulement les noirs, n'arrête pas de mordre les noirs, je veux simplement que tu ne mordes pas simplement les noirs.
Et oui, c'est là qu'il est très malin, effectivement. Ouais. Il ne veut pas brider la nature du chien. Ouais. Et c'est dans la nature du chien de mordre aussi. Mais il veut défaire le déconditionnement. Alors, c'est là... ce qui est intéressant aussi, là pour le coup par rapport aux Racines du Ciel, c'est qu'il y a un rapport personnel et affectif avec l'animal. Depuis La Promesse de l'Aube, ça, c'est une évolution ça, dans le rapport à l'animal, c'est de plus en plus affectif, c'est de moins en moins un symbole, ou si on veut, peut-être il devient meilleur écrivain ou meilleur romancier, il incarne de plus en plus son symbole. Et donc le rapport avec le chien est un rapport... très affectif où il projette beaucoup de choses sur le chien. Et le problème de projeter des choses sur le chien, c'est que à nouveau, il l'instrumentalise. Et c'est là qu'il donne un tour de vis supplémentaire à son raisonnement. C'est-à-dire que, au fond, le problème, et c'est le grand problème de Gary depuis Éducation européenne, depuis son premier roman, c'est le rapport entre l'idéalisme et les moyens qu'on utilise pour l'idéalisme. Et le chien, d'une certaine façon, est l'animal vivant, l'être vivant. La première phrase du récit, c'était un chien gris. Le chien qui est gris, qui n'est ni blanc ni noir. C'est forcément mélangé, sa nature-là, sa nature de chien. Et que l'être vivant... finalement va disparaître sous, de la même façon que ceux qu'il avait dressés avaient projeté sur le chien des haines entre les humains, finalement, la bonne conscience du militant qui veut, pour des bonnes raisons, pour des motifs nobles, louables, inverser le conditionnement du chien, met en danger le chien parce que, à nouveau, ça en fait un enjeu abstrait, et ça nie sa nature réelle d'être affectif, aimant, avec un regard, avec etc. Le regard du chien est très présent dans le roman. Et donc
Dépend des crocs d'ailleurs, c'est intéressant. On voit plus yeux du chien que
oui, beaucoup plus. C'est intéressant d'ailleurs de voir que Samuel Fuller a fait une adaptation de Chien Blanc. Samuel Fuller, qui était un ami de Gary, c'est deux anciens vétérans de la Seconde Guerre mondiale, et ils s'estimaient beaucoup. Et Samuel Fuller filme en gros plan la gueule du chien, beaucoup plus que Gary ne l'a fait présente dans le texte.
On va l'entendre, cette gueule du chien, à défaut de pouvoir la voir, donc dans une adaptation de Chien Blanc par Samuel Fuller, qui, en 1982, qui est intitulée « Dressé pour tuer ».
That ain't no attack dog you got. That's a white dog.
Of course he's a white dog.
I don't mean his color. He's going to attack and kill black people.
That's crazy. I don't believe that.
What the hell you mean, huh? You see this scar, lady? You see this goddamn scar? Well, I got that when I was 14 years old. A white dog did it. I'm gonna call the police. I'm gonna tell them we got a goddamn white dog here.
Joe, forget the police. And as for the rest of the men, he's just an attack dog. Understood?
Lloyd est par terre, le visage et les mains couverts de sang, essayant de repousser Batska, dont les crocs cherchent la gorge de l'homme. Il y a de nombreux enfants dans la pièce, et le plus grand, qui ne doit pas avoir plus de 5 ans, essaie de tirer le chien par la queue, cependant qu'un autre gosse pleure d'une petite voix de greluchon. Les autres regardent immobiles. Je me jette sur Batska, je reçois des coups de croc comme des coups de couteau, je me laisse tomber en jurant sur la bête qui me mord profondément au ventre. Je roule sur le plancher, accroché au poil du chien qui cherche toujours la gorge de Lloyd, et je vois Keys, en slip, debout dans l'escalier. Il est en train de rire. Combien de temps est-il resté ainsi, le sourire aux lèvres, les mains sur les hanches, en vainqueur, savourant son égalité ? Black dog, chien noir. J'entends encore ici, à Andrex, où j'écris seul avec l'horizon, ma voix rageuse, où je reconnais à présent l'écho de je ne sais quelle joie, de je ne sais quelle libération, comme si j'étais enfin parvenue à désespérer. Vous avez gagné, c'est chien noir maintenant. Batka venait sur moi. Il m'avait mordu à plusieurs reprises, mais aveuglément, dans la mêlée, alors que j'essayais de lui faire lâcher prise. Lloyd ne se défendait même plus. Il était étendu sur le dos, inerte, les bras repliés pour se protéger le visage. En une seconde, le chien fut sur moi. Je reçus une morsure au poignet et roulai en arrière. Ma nuque heurta le mur. J'attendais, la tête baissée, les poings en avant. Il ne se passa rien. Je levai la tête. Je vis devant moi les yeux de ma mère, des yeux de chien fidèle. Batka me regardait.
Cette fois-ci, ce n'est plus lui-même, mais sa mère qu'il voit dans le chien, ce qui est peut-être encore pire pour Romain Gary. Julien Roumette, alors, toute l'ironie de ce texte consiste à montrer la perversité, la bêtise absolue qu'il y a à penser guérir le chien en changeant tout simplement sa cible, en le maintenant comme chien raciste, mais cette fois-ci en ne prenant plus pour cible les Noirs, mais les Blancs.
Oui, là, on voit bien, c'est le moment du retournement où effectivement la nature du chien reprend le dessus sur les conditionnements successifs, mais c'est pour mourir. Chien Blanc, c'est le texte où il donne sa définition la plus terrible de la littérature. Il dit écrire, c'est-à-dire hurler. Et donc c'est vraiment un cri. Il veut pas arrondir les angles. Il veut pas mettre le lecteur à l'aise. Il veut mettre le lecteur en porte-à-faux. Et cette histoire du chien est terrible parce que il pourrait y avoir un happy end du chien blanc qui serait déconditionné et qui redeviendrait un chien normal et qui se remettrait à vivre normalement. Gary ne veut pas ça. En imaginant qu'on peut guérir le chien, il commet l'erreur de le confier à un dresseur dont il ne sait pas qu'en réalité c'est un militant noir et qui voit là une occasion d'en faire un instrument et de retourner le chien, d'en faire un chien noir. C'est-à-dire au lieu de faire un chien qui attaque les blancs, c'est un chien qui attaque les noirs, c'est un chien qui attaque les blancs. Donc il retourne et l'opposition noir-blanc est point de vue très clair. Et donc il est coupable de la mort du chien aussi. Lui et Gene Seberg sont coupables de la mort du chien par bonne conscience, parce qu'ils ont eu trop confiance dans le dresseur et ils ont de certaine façon eu trop confiance dans les hommes. Et donc le chien. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le message que Samuel Fuller, qui est américain contrairement à Gary, a retenu. Il a changé la fin d'ailleurs, Samuel Fuller.
C'est vrai.
Et ça se termine sur ce constat absolument tragique du chien qui est devenu un chien noir. Et voilà, et c'est absolument désespérant. Hein. Gary l'écrit là. Je suis presque parvenu à désespérer complètement. On est vraiment dans un récit du désespoir. Parce que, à l'image du chien, c'est l'ensemble des idéaux humanistes qui sombrent dans un récit comme celui-là. Alors, Gary cherche quand même une sorte de happy end. Il atténue légèrement la fin.
Happy end, je ne sais pas.
Non, ce n'est pas un happy end. Mais enfin, parce que le chien se rend compte, revient à sa nature et donc meurt. On ne sait pas trop comment. D'ailleurs, on a l'impression qu'il décide de mourir et il meurt pour ne pas rentrer dans la folie des hommes. Mais donc, là, c'est un texte assez terrible et c'est un texte de provocation. Il veut faire réagir le lecteur. Comme
et c'est d'ailleurs dans ce texte qu'il parle de société de provocation à propos de la société de consommation.
Tout à fait, oui. Ce qui lui va très bien, effectivement. Là, il...
Mais on pourrait faire à Gary quand même l'objection de céder trop facilement au manichéisme, que ce soit dans Les Racines du Ciel ou dans Chien Blanc. On a quand même vraiment une opposition frontale entre les noirs et les blancs dans les deux cas d'ailleurs. Hein, l'homme africain bon, qui était très bon et sans doute innocent avant d'être colonisé. Pareil aux États-Unis à ce moment-là. Et c'est peut-être ce qui là où il perd en subtilité littéraire, disons.
Alors, si on s'en tient au niveau du chien, oui. Si on regarde les personnages, un peu, je crois pas. Parce que les personnages sont extrêmement nuancés. Et justement, il y a toute une palette de personnages. Beaucoup de militants blancs, en particulier juifs, et qui aident le mouvement noir. Et au fond, Gary, dans un texte comme Chien Blanc, intervient directement dans le débat américain sur le mouvement des droits civiques et sur le mouvement noir. Il a été très proche par Gene Seberg, qui les a soutenus activement, des éléments qui se sont radicalisés tout au long des années 60. D'abord auprès de Malcolm X, puis des Panthères Noirs, qui se sont radicalisés progressivement et donc qui ont prôné le recours à la violence contre eux. Et Gary, qui s'est battu pendant la guerre, qui est un idéaliste, qui a pris les armes, il voit ça avec son regard de génération. Il se présente d'ailleurs comme étant de la génération. Hein, et puis il y a aussi un passage sur mai 68 où il se présente comme un ancien de la génération. Donc c'est le regard de la génération de la guerre sur les mouvements des années 60. Et il intervient dans ce débat-là à la suite de son ami qui est William Styron, qui vient de publier en 1967 Les Confessions de Nat Turner. Et qu'on a beaucoup attaqué parce que c'est un écrivain blanc qui se projette dans un esclave noir. Nat Turner, c'était la plus importante des révoltes violentes d'esclaves aux États-Unis au début du 19e siècle. Et on lui a reproché, lui, écrivain blanc, d'écrire « je » à la première personne à la place d'un noir. Styron lui-même est proche d'un écrivain noir qui s'appelle James Baldwin, qui est un des grands écrivains de la cause noire, en particulier La prochaine fois le feu, qui est un essai tout à fait remarquable, qui était proche de Martin Luther King, et qui avait fait la même chose, lui, à la fin des années 50, dans un roman qui s'appelait La chambre du Giovanni, où le personnage était un blanc, et donc on l'avait accusé de trahir la cause noire en mettant en scène un personnage blanc. Et Styron et Baldwin étaient très proches l'un de l'autre, et Styron raconte comment Baldwin l'avait beaucoup encouragé à écrire Les Confessions de Nat Turner, et comment Styron l'avait hébergé et aidé au moment où il écrivait, où il était attaqué à cause de... Bon. Et Gary, c'est un ami très proche, William Styron, il habitera chez Styron, il lui prêtera sa maison, etc. Et dans cet imaginaire-là, de transgresser la frontière, de dire non, la littérature, elle est du côté de l'imagination. La littérature, elle dépasse toutes les frontières culturelles, évidemment de couleur de peau. Et y compris, même dans Chien Blanc, il va plus loin, y compris les frontières entre les espèces animales, c'est-à-dire entre l'homme et le chien, entre l'homme et le chat, mais aussi entre l'homme et le kangourou, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans les serpents, les pitons.
La littérature permet de transgresser les frontières, mais également la chanson, puisque c'est Nino Ferrer qui chante « Je voudrais être noir ».
Wilson Pickett, Thomas James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas.
Merci beaucoup Julien Roumette d'être venu nous parler de Romain Gary aujourd'hui.
Merci à vous.
C'était un plaisir de vous entendre parler des Racines du ciel et donc et de Chiens blancs, de livres qui sont disponibles notamment chez Gallimard en folio. Et puis j'annonce aussi, puisque c'est le dernier temps notre série consacrée aux animaux, que le 25 janvier prochain, Gallimard publie dans la collection Folio Plus Classique une anthologie de nouvelles de Maupassant sur le thème des animaux, évidemment. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Abricots, nous n'en aurons pas encore cette année. Académie française, la dénigrer, mais tâcher d'en faire partie si on peut. Actrice, la perte des fils de famille, sont d'une lubricité effrayante.
Abricot, Académie française, actrice jusqu'au W de Wagner, le dictionnaire des idées reçues de Flaubert apparaît comme la cerise sur le gâteau d'une œuvre consacrée à la bêtise. Après Bouvard et Pécuchet, avec lequel il disait vouloir rendre fou le lecteur devant tant de débilité de ses héros, celui que Sartre a appelé l'idiot de la famille parvient avec ce dictionnaire à la forme la plus pure et la plus sublime de la bêtise, celle où elle ne se réduit qu'à des tautologies, qu'à des hyperboles où l'identité d'une chose est appuyée pour finalement ne rien en dire. Mais voilà, une chose est de dire des bêtises, une autre en est d'être bête. Quoique, comme l'a aussi dit Flaubert, quelle forme faut-il prendre pour exprimer son opinion sur les choses sans risquer de passer plus tard pour un imbécile? Et bien justement, dans son essai, Roland Bréheur ne veut pas dire ce qu'est la bêtise au risque lui aussi d'en être. Il veut voir comment elle se dévoile en tant que phénomène. Et quoi de mieux pour cela que la parole d'un esprit qui se prend au sérieux ou que le geste d'un idiot qui est toujours en décalé? Des deux, l'idée n'est pas ici de dire qui est le plus bête et encore moins de réhabiliter la bêtise comme envers critique et lucide. L'idée est plutôt de voir comment se dévoile la bêtise, mais aussi ce qu'elle dévoile de nos manies, à tout figer dans le marbre, à plaquer, comme dirait Bergson, du mécanix sur du vivant. Ou pire, à se pétrifier soi-même dans une attitude, comme le garçon de café de Sartre. C'est sûrement d'ailleurs cela, le sublime de la bêtise, révéler la débilité saine, c'est-à-dire la simplicité de ce que l'on est, et comment on se force à tout prix à se parer d'opinion. Comme quoi Flaubert avait sûrement raison de faire le pont entre dire ou faire des bêtises et être bête.
Mais Flaubert a toujours raison.
Flaubert a toujours raison, mais il n'est pas imbécile pour autant.
Le titre du livre.
Autour de la bêtise, c'est de Roland Bréheur et c'est chez Classic Garnier.
Ça donne très envie. Merci Géraldine. Et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, ainsi que cette semaine consacrée aux animaux, miroir animal. Pas d'inquiétude, non seulement on se retrouve demain pour les chemins du vendredi, où je recevrai pour l'actualité philosophique du jour Daniele Lorenzini à propos de son livre Éthique et politique de soi, Foucault, Ado, Cavell et les techniques de l'ordinaire, paru chez Vrin. Mais également, vous pouvez réécouter l'intégralité de ces émissions en vous rendant sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins, les réécouter en ligne, en étant connecté sur Internet, ou bien en les téléchargeant, les podcastant afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure qui vous arrange le plus. Rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et puis, je vous le rappelle, comme tous les jeudis, cette émission est partenaire de Philosophie Magazine, dont vous pouvez lire le dernier numéro, décembre-janvier, consacré à la terreur. La terreur va-t-elle nous changer ? avec un entretien avec Elisabeth Badinter, un entretien aussi entre Maria João Pires et Francis Wolff sur Pourquoi la musique nous émeut, et un cahier central consacré à Albert Einstein.